Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal au Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le gouvernement a pris des dispositions pour la tenue des élections prévues en 2023. C'est la réponse de la CENI aux craintes de certains observateurs en rapport avec la participation des Congolais vivant à l'étranger à ces élections. Et puis, restaurer la paix en réconciliant les peuples Teke et Yaka, c'est la mission que s'est assignée la gouverneure du Maïndombé. Accompagnée du conseil provincial de sécurité, Rita Bola est arrivée hier jeudi à Kwamout. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Joseph Senda, directeur chargé des opérations électorales à la CENI. Il s'exprimera sur comment faire participer les Congolais vivant à l'étranger aux élections de 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour. Processus électoral en RDC. La CENI envisage de procéder dans les prochains jours à l'identification et à l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Selon les responsables de la CENI, il s'agit d'une phase expérimentale qui va concerner d'abord 5 pays. Une équipe de la centrale électorale se rendra bientôt dans ces états pour récolter des informations relatives à la faisabilité de ces opérations. Aux observateurs qui pensent que cette démarche pourra impacter négativement sur le budget alloué aux élections, le chargé des opérations électorales de la CENI répond que le gouvernement a pris des disposition pour la tenue des élections prévues en 2023. Joseph Senda est au micro de Jean-Claude Lokidile.
L'enrôlement des Congolais à l'étranger est à prendre comme une opération pilote à caractère purement symbolique. Nous avons 66 représentations, nous avons pris moins du dixième. C'est quelque chose que nous ne sommes pas en mesure d'organiser pour les 66 représentations. Il y a 5 missions qui vont être déployées. Il y a une mission qui va être déployée. C'est une mission de repérage pour que nous puissions avoir une certaine idée sur un certain nombre de choses. La capacité de nos ambassades à recevoir des centres d'inscription, les statistiques des Congolais qui sont dans ces pays-là et d'autres problèmes dont nous avons besoin.
Est-ce qu'il y a tous les moyens sont déjà réunis quand on sait que la CENI, selon certains experts, est estimée à en tout de 900 millions de dollars américains le coût de ces élections, mais n'ajoutant encore toutes ces opérations. Bref, est-ce que tout est au vert pour qu'il n'y ait pas glissement?
Chaque fois que l'occasion est donnée à certaines personnes de poser la question au président, il dit les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. C'est lui le garant.
L'argent est là.
Le président a dit les élections auront lieu dans le délai constitutionnel.
Après de l'argent, est-ce que vous, CENI, vous confirmez qu'il y a l'argent?
La République a dit que les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. C'est fini. Donc, il va mobiliser l'argent pour les élections aient lieu.
Joseph Senda, chargé des opérations électorales à la CENI, est l'invité de ce journal à suivre donc à la fin de cette édition. Par ailleurs, les Nations Unies redoutent l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2023 en République démocratique du Congo. Selon un article de Africa Intelligence publié mercredi dernier et repris par plusieurs médias congolais qui citent un rapport d'experts de l'ONU, plusieurs défis expliquent cette crainte et des scénarios sombres sont prévisibles. En effet, à la demande de la CENI, la mission d'évaluation des besoins électoraux de l'ONU a été déployé en début d'année et a finalisé son rapport. Il s'agit des deux experts électoraux mandatés par les programmes des Nations Unies pour le développement. Ils ont cartographié les risques des conflits avant, pendant et après les élections de 2023. Grâce à Mzati nous a fait le point.
Le premier défi selon ces rapports est d'ordre sécuritaire à l'est du pays où opèrent toujours une centaine de groupes armés dont les M23 et l'ADF. L'état de siège toujours en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où toute activité politique reste théoriquement suspendue laisse craindre des obstacles majeurs pour l'organisation et la tenue du scrutin, note ces rapports. Ainsi, les consultants du PNUD constatent qu'un glissement du calendrier est désormais possible. À cela s'ajoutent les déficits financiers pour les élections dont le coût est estimé à 900 millions de dollars. La CENI est encore loin de récupérer les 640 millions de dollars sollicités pour l'année 2022, indispensables à l'achat du matériel électoral. Ces experts mandatés par les PNUD mettent aussi en exergue l'inquiétude autour de la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge du pouvoir, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, trois scénarios semblent se dégager aux yeux des experts de l'ONU. Le premier verrait les francs communs pour le Congo FCC de l'ancien président Joseph Kabila s'entendre avec la majorité actuelle pour garantir sa présence au sein des deux chambres du Parlement. Le deuxième scénario verrait pour sa part la formation de Joseph Kabila s'entendre avec un autre partenaire de l'opposition pour mener le combat dans les urnes contre Félix Tshisekedi. Enfin, le troisième scénario est celui de tous les dangers pour le pouvoir actuel. Il prévoit un boycott du scrutin par les FCC et son clan, cherchant à travers leur influence sur les forces de sécurité à pourrir les processus électoraux, avec pour conséquence une interruption des opérations électorales et le début d'une crise politique majeure, ouvrant sur une période de transition et de nouvelles élections.
Restaurer la paix en réconciliant les peuples Teke et Yaka, c'est la mission que s'est assignée la gouverneure du Mai Ndombé. Accompagnée du conseil provincial de sécurité, Rita Bola est arrivée hier jeudi à Kwamout, s'adressant à la foule venue l'accueillir. Elle a rassuré que pendant son séjour, elle échangera avec les représentants de toutes les couches de la population afin de mieux cerner les contours du conflit interethnique qui endeuille ces deux communautés dans le but de trouver une solution. Irène Moma nous en dit plus.
C'est en début de l'après-midi de ce jeudi que Rita Bola, gouverneure de la province du Mai Ndombé, est arrivée avec sa suite dans la cité de Kwamout, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, où les tribus Teke et Yaka sont en train de s'entretuer. D'après elle, sur place, la situation est calme grâce à la présence depuis quelques jours d'un bataillon de militaires déployés depuis Kinshasa dans le but de sécuriser cette partie du Mai Ndombé. Tout en appelant la population au calme, elle rassure celle-ci de sa ferme volonté à faire revenir la paix à Kwamout. Elle entend consulter d'abord toutes les couches de la population pour s'enquérir de la situation et en trouver des pistes de solutions. Rita Bola.
En premier lieu, j'ai dit que je dois savoir ce qui s'est réellement passé, seulement à partir de la population elle-même. Donc, nous allons recevoir groupe par groupe, hein, structure par structure.
Écoutez cette population pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a commencé. Là, nous allons commencer par la réconciliation. On va aider les familles dans les villages. Il y a eu des maisons brûlées. Il y a des déplacés.
Précisons que dans la soirée de ce même jeudi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et plusieurs autres autorités nationales viennent d'arriver aussi à Kwamout pour la même mission. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis les groupes armés, Force de Résistance Patriotique de l'Ituri et Front Patriotique et Intégrationniste du Congo réitèrent leur engagement de rester dans les processus de paix en cours dans cette province. Ils l'ont dit mercredi dernier à Bounia, à l'issue de consultations entre les autorités et les représentants des communauté Bira Ngiti, associé aux délégués de ces milices, signataires des deux actes d'engagement. Cependant, ils recommandent entre autres leur prise en charge par le gouvernement et le début effectif du programme de DRC. Des détails avec Marcel Kizabiamungu.
C'est mercredi que la première série des consultations a pris fin entre les autorités militaires et des notables de la communauté Lendubindi, associés aux représentants du groupe armé Force des Résistances Patriotiques de l'Ituri FRPI. Des jours durant, les responsables de cette milice ont réaffirmé leur volonté de rester dans les processus de paix malgré certaines difficultés liées notamment à la logistique. Ils ont recommandé la prise en compte par le gouvernement congolais de leur cahier de charge pour un aboutissement apaisé du processus de paix. Il y a une semaine, le FPIC qui réitérait déjà son engagement à poursuivre avec ce processus. Cependant, la prise en charge reste le problème commun à ces deux groupes armés. Selon la section des affaires civiles de la MONUSCO à Bounia, qui facilite s'y raconte un plan d'action de bonne conduite des miliciens en attente du débit effectif du programme 2DRCS sera mis en place à l'issue de ces rencontres. À noter que la semaine prochaine, ces consultations vont s'étendre au groupe armé Codeco. Nous n'avons pas réussi à joindre le coordonnateur provincial du P2DRCS à l'Ituri à CCJ. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nord Kivu, y sont des dizaines d'élèves déplacés de guerre qui s'interrogent sur leur avenir en rapport avec la rentrée scolaire prochaine. En effet, ces enfants et leurs parents ont fui leur village du territoire de Rutshuru depuis environ 3 mois maintenant. C'est à cause des hostilités entre l'armée loyaliste et les rebelles du M23. Installés dans au moins 5 écoles et autres lieux publics dans le Nyiragongo, ces élèves observent désespérément leurs camarades s'inscrire dans les écoles où ils ont trouvé refuge. Face à cela, la société civile territoriale de Nyiragongo plaide auprès de l'État congolais pour une solution urgente. On écoute à ce sujet Thierry Gassisiro, secrétaire de la coordination de la société civile de Nyiragongo.
Lors de ces inscriptions, on pouvait observer un afflux de parents qui venaient solliciter des places pour leurs enfants. Mais de l'autre côté, on pouvait observer un sentiment de désespoir du côté des déplacés qui observaient impuissamment les parents qui venaient inscrire leurs enfants. Plusieurs questions sont restées sans réponse. Comment les cours seront organisés dans ces écoles-là occupées par les déplacés de guerre? Est-ce que les enfants des déplacés de guerre aussi vont étudier? Et s'ils vont étudier, où ils vont étudier? Et comment seront organisés les cours? Comment ils seront pris en charge? D'où auront-ils les fournitures scolaires? Car leurs parents sont démunis, ils ont tout laissé, ils ont difficile à avoir de quoi manger. seront-ils capables d'obtenir les fournitures scolaires pour les enfants? Et que donc toutes ces questions-là restent sans réponse. Nous, nous sommes en train de demander au gouvernement congolais ainsi qu'aux hommes de bonne volonté de vouloir jeter un œil de compassion à l'égard de ces enfants-là déplacés pour voir dans quelle mesure ces enfants vont aussi accéder aux cours, car l'éducation scolaire est un droit garanti pour tous les enfants congolais.
Le directeur de la province éducationnelle du Kasaï Oriental 1 lance la campagne de dénonciation des écoles et chefs d'établissement qui demandent les frais d'inscription ou des réinscriptions aux parents d'élèves. C'est en violation des dispositions pratiques de la rentrée scolaire 2022-2023 contenues dans la note circulaire du secrétaire général et du ministre de l'EPST portant sur les frais de scolarité. Joseph Mwinkou demande à tout parent à qui on demandera cet argent de l'appeler au numéro 084-965-7560. Il a été joint par Esther Ndalafina.
Nous avons lancé cette campagne, c'est dans le cadre de décourager tous ces chefs d'établissement véreux qui osent fixer un montant pour la réinscription ou l'inscription des enfants à l'école, étant donné que c'est une pratique interdite par la circulaire de son Excellence Monsieur le Ministre Tony Mwamba Kazadi. Nous avons mis en place ces moyens pour permettre aux parents et surtout à la communauté est-kassaïenne de dénoncer les écoles et les chefs d'établissement qui se livrent à ces genres d'actes, pour qu'à notre tour, nous puissions prendre des mesures disciplinaires exemplaires afin de mettre fin à ce genre de choses qui sont en train, bien sûr, de ternir l'image du système éducatif. Vous le savez très bien, nous sommes toujours en train de poursuivre notre lutte contre les antivaleurs. Ça veut dire aussi le non-respect des instructions émanant de notre hiérarchie. Voilà pourquoi nous avons mis ces dispositifs à la portée de tous pour nous permettre de recevoir des informations à la minute et mener une contre-vérification administrative afin de prendre une disposition disciplinaire pour ceux qui vont se retrouver dans le cas de non-respect des tests.
Et dans la ville de Boma, au Congo central, une fillette de 12 ans, soupçonnée de sorcière dans sa famille, a été brûlée sur plusieurs parties du corps par une féticheuse. Selon le commandant du commissariat de la police de la commune de Kabondo, ce traitement lui a été infligé pour sa délivrance, une scène encouragée par sa tante maternelle. Le commandant Célestin Tsatsa invite la population de Boma à ne pas se livrer à ces actes de maltraitance des enfants au risque de subir la rigueur de la loi. Le point avec Nana Plurish Mambou.
C'est à l'aide d'un feu ardent de bois de chauffage qu'Nsielo Chayama, la belle-fille, âgée de 12 ans, orpheline des mères, a été brûlée au niveau de la tête, des bras, des mains, par une féticheuse nommée Maman Sarah. Cette dernière, encouragée par Madame Koubela Binda Mamisa, la tante de la fillette, a même brûlé le sexe de l'enfant en la mettant sur des braises alors qu'elle était toute nue. Selon le commandant du commissariat de la police de Kabondo, ces actes ont été commis sur la fillette pour l'amener à avouer sa sorcellerie tout en acceptant la délivrance. Belle-fille a eu la vie sauve grâce à la dénonciation de son grand-père maternel qui l'a recueilli après avoir été chassé par son père et sa marâtre qui l'ont taxé de sorcière. Pour l'heure, elle est prise en charge dans une formation médicale de la place. Quant à la tante, les pères de l'enfant et sa marâtre, ils sont tous détenus à l'état-major de la police de la ville de Boma. Maman Sarah la féticheuse a été interpellée hier jeudi tôt le matin. Elle sera jugée pour violation des droits de l'enfant et maltraitance. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Zoé Kabila dit attendre d'être rétabli dans ses droits pour trouble de jouissance sur la parcelle 6 au numéro 2 de l'avenue Likasi dans la commune de la Gombe à Kinshasa. À la justice de trancher, dit-il, concernant les dégueupissements dont il est victime depuis mardi. Deux actions sont en cours d'examen devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et le conseil d'État. Au cours d'une conférence de presse, hier jeudi, ses avocats considèrent ces dégueupissements comme étant illégal puisqu'il n'a pas respecté la procédure en la matière. Ils en donnent l'historique portant à l'époque de feu l'ancien président Mobutu. Selon Maître Benjamin Lukamba, la parcelle appartient à la société Katanga Premier dont Zoé Kabila est associé et y avait ce bureau. Elle est couverte d'un certificat d'enregistrement. L'avocat de Zoé l'a dit à Jeff Ngoy.
Katanga Premier est concessionnaire avec un titre de propriété. On ne voit pas comment on continue à considérer que cette parcelle est du domaine privé de l'État. Alors que cette parcelle a quitté le domaine privé de l'État depuis le régime de Mobutu. Cette opération s'est effectuée notamment jusqu'au matin par des militaires lourdement armés qui ont procédé au bris du portail. Ils ont brisé le portail et ils sont entrés dans la parcelle. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve. Donc, Katanga Premier a été déguerpi. Comme vous l'avez constaté, il s'agit là d'un déguerpissement manifestement illégal puisqu'on n'a pas respecté la procédure. Donc, c'est une histoire qui a été boutiquée depuis longtemps d'une façon assez irrégulière. En cela, nous concluons que le droit de jouissance du fonds, également établi par un certificat d'enregistrement.
l'actualité internationale.
En Angola, le MPLA remporte les élections générales selon les résultats provisoires. La Commission nationale électorale a donné hier jeudi ses derniers résultats provisoires. Il s'appuie sur plus de 97% des votes. Pour la première fois depuis l'indépendance, le MPLA l'emporte avec une courte majorité. Et puis Dakar propose ses bons offices dans le dossier des accusations de Bamako contre Paris. Alors que les Nations Unies n'ont toujours pas répondu au Mali qui a demandé une réunion au Conseil de sécurité, le Sénégal se place comme médiateur entre le président de la transition Assimi Goïta et le président français Emmanuel Macron.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition Joseph Senda, directeur chargé des opérations électorales à la CENI. Il s'exprime sur comment faire participer les Congolais vivant à l'étranger aux élections de 2023. Joseph Senda s'entretient à ce sujet avec Jean-Claude Lokidili.
Joseph Senda, bonjour.
Bonjour.
La plénière de la CENI a organisé un atelier. Vous avez parlé de l'identification et enrôlement des personnes déplacées internes, mais aussi des Congolais résidant à l'étranger, voir dans quelle mesure justement ces personnes pourront bien participer aux élections de 2023. Qu'est-ce qui justifie cette démarche?
En fait, lorsque nous lisons la loi voudrait que tout Congolais qui est sur le territoire national bénéficie de la possibilité de se faire enrôler. Et de ce fait, nous avons pensé à une catégorie des Congolais qui est un peu en marge de la situation normale. Ce sont les déplacés internes. Ce n'est pas le fait de s'être déplacés qu'ils ne sont plus Congolais. Ils sont toujours Congolais et ils ont le droit de bénéficier justement d'une carte d'électeur et de procéder, enfin de participer aux différentes élections prévues dès l'année prochaine. Tandis que pour ce qui est des compatriotes, la loi organique dispose qu'il faut envisager la possibilité d'enrôler les Congolais et l'étranger pour qu'ils participent aussi au scrutin, principalement à la présidentielle.
Puisque vous en parlez, vous avez choisi 5 pays parmi lesquels en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, et en Europe, c'est la France, c'est la Belgique, et aux Amériques, il y a le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce qui te fait le choix de ces 5 pays, Joseph?
Deux raisons majeures. La première raison, c'est que nous sommes sûrs que là, nous allons y trouver un nombre assez important de compatriotes. Ce ne sont pas les seuls pays, mais c'est parmi les pays top où il y a beaucoup de Congolais. Et la Belgique est à côté de la France, donc ces deux pays-là hébergent un nombre important de Congolais. De la même manière aussi, la République sud-africaine héberge aussi un nombre important de Congolais. Et puis, il y a les deux autres pays. Et si vous avez bien suivi dans son intervention, son Excellence, le président de la CENI, a dit que ce sont des pays qui disposent aussi d'un état civil assez modernisé, qui peut nous permettre d'avoir des informations sur les compatriotes, parce que quand on arrive sur un territoire étranger, on vous est enrôlé, etc., etc.
Les conflits armés qui affectent l'Est, par exemple l'Ituri, pour parler du cas de l'Ituri, il y a beaucoup de Congolais qui ont traversé la frontière, qui sont en Ouganda. On parle de plus de 400 000 réfugiés congolais qui sont en Ouganda. Pourquoi les oublier? Plutôt aller enrôler des Congolais qui sont en Afrique du Sud, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada.
Nous avions dit que l'enrôlement des Congolais à l'étranger est à prendre comme une opération pilote à caractère purement symbolique. Nous avons 66 représentations. Nous avons pris moins du dixième. C'est quelque chose que nous ne sommes pas en mesure d'organiser pour les 66 représentations.
Voilà. Mais on comprend que compte tenu de la sensibilité régionale aussi, ce qui fait à ce que justement qu'on ne puisse pas, pour l'instant en tout cas, enrôler des Congolais qui sont dans des pays limitrophes.
Nous avons pensé à ça. Lorsqu'ils sont sur le territoire national, la loi nous oblige à le faire. Lorsqu'ils traversent les frontières, ils vont ailleurs, ils sont sous la HCR, nous ne savons pas comment les gérer. Mais nous pensons que avant que les opérations ne commencent, certains peuvent revenir au pays et participer en interne à l'opération d'identification et d'enrôlement.
Ah, mais concrètement, comment cette opération va se passer sur le terrain?
Il y a 5 missions qui vont être déployées. Il y a une mission qui va être déployée en Afrique du Sud, qui va aller en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Ils vont partir avec une sorte de cahier de charges, avec un formulaire à remplir pour obtenir les informations dont nous avons besoin. C'est une mission exploratoire, c'est une mission de repérage pour que nous puissions avoir une certaine idée sur un certain nombre de choses, la capacité de nos ambassades à recevoir des centres d'inscription et les statistiques des Congolais qui sont dans ces pays-là et d'autres problèmes dont nous avons besoin. Ce sont ces missions-là exploratoires qui vont nous ramener certaines informations pour la suite de la planification de l'enrôlement des Congolais de ces 5 pays-là.
On peut dire peut-être à la fin, on peut aussi rejeter cette démarche-là. Donc, on laisse tomber si on voit que ça, c'est pas possible, quoi.
Non, mais en fait, moi, à mon niveau, je ne sais pas décider. OK. Et ceux qui ont la décision, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la plénière qui a organisé l'atelier. C'est à elle que revient le dernier mot en ce qui concerne les options à prendre dans un sens comme dans un autre.
Dernière question, c'est qui concerne justement le financement de toutes ces opérations. On va ajouter justement l'enrôlement des Congolais de la diaspora ou qui vivent à l'étranger. Je parlais des finances. Est-ce que tous les moyens sont déjà réunis quand on sait que la CENI, selon certains experts, est estimée à en tout de 900 millions de dollars américains le coût de ces élections, mais n'ajouter encore toutes ces opérations. Bref, est-ce que tout est ouvert pour qu'il n'y ait pas glissement? Voilà le terme des acteurs politiques.
Je crois que chaque fois que l'occasion est donnée à certaines personnes de poser la question au président, il dit les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. Le président de la République, je dis, c'est lui le garant, c'est tout. Nous, quand il déclare que les élections auront lieu dans le délai constitutionnel, c'est fini.
L'argent est là.
Le président a dit les élections auront lieu dans le délai constitutionnel.
Après de l'argent, est-ce que vous, CENI, vous confirmez qu'il y a l'argent?
La République a dit que les élections auront lieu dans le délai constitutionnel, c'est fini. Donc, il va mobiliser l'argent pour les élections aient lieu.
Joseph Senda, je vous dis merci.
Merci beaucoup, merci.
Joseph Senda, directeur chargé des opérations à la CENI, était notre invité. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Capi.